Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à un autre épisode de Jason Ballon Rond. Aujourd'hui, on est quel jour? On est le 1er septembre. 1er septembre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire fin du mercato européen, un mercato qui a été endiablé. Oh. Et pour en parler aujourd'hui à Jason Ballon Rond, on est seulement deux. Le grand, le tout-puissant, vous le connaissez, Doualé Ibrahim, est avec moi, Olivier Prince-Groslot, pour cet épisode-là. Malheureusement, Thomas et Nicolas ne pouvaient pas être avec nous aujourd'hui, mais d'où, comment tu vas?
Ah, écoute, je vais bien, Ali, puis on a vraiment eu un été assez extraordinaire, il faudrait le dire, là, sur toute l'action par rapport au mercato d'été. Moi, le mercato d'été, c'est une saison que j'aime beaucoup. Normalement, bon, c'est pas la saison préférée de tous les amateurs de football, surtout parce que la saison européenne est terminée, puis que souvent, quand il n'y a pas de Coupe du Monde ou de compétition internationale, il ne se passe pas grand-chose vu que c'est la saison morte. Mais là, cette année, on a le droit à des moments spectaculaires, là, des sommes astronomiques offertes par plusieurs équipes à des joueurs qu'on s'entendait plus ou moins. Puis surtout aussi, la montée de l'Arabie Saoudite dans le marché footballistique, ça, c'est assez incroyable, là.
Ouais.
Mais en tout cas, moi, c'est malade. Ouais. Vas-y, je te laisse continuer. Là. Moi, en tout cas, si j'ai une chose à dire, là, c'est sensationnel. Sensationnel.
Ouais, ben, t'as bien raison. Tu sais, un des trucs qui était intéressant avec le sport du football ou du soccer, peu importe comment on l'appelle, c'est qu'il y a de l'action à l'année longue. Comme tu l'as dit, le mercato, à chaque année, grâce à le GOAT Fabrizio Romano, on a des nouvelles soccer importantes à chaque jour. Contrairement peut-être au hockey, tu sais que c'est y a la date limite des transactions, ça va bouger le jour des joueurs autonomes, mais ça reste plus tranquille durant l'été. Le soccer, ce n'est pas ça. Ça roule constamment, toujours des nouvelles. Donc oui, je suis tout à fait d'accord que ça a été encore une fois très excitant. Puis, le gros point de ce mercato d'été-là, tu l'as mentionné, c'est l'Arabie Saoudite, avec le fonds souverain, le financement, les quatre gros clubs qui sont venus faire tellement de choses qu'on ne voyait pas, là, autant de joueurs européens, de grands talents qui quittent vers un autre continent, un autre championnat qui était inconnu des amateurs ou presque jusqu'à maintenant. Donc, voilà. Mais là, lançons-nous, d'où? Avec les derniers transferts, donc on n'a pas encore vraiment parlé. Des gros transferts, premièrement, aujourd'hui, il y a plusieurs derniers jours du mercato, il y a plusieurs transferts qui sont tombés. Entre autres, un très gros montant, c'est le cinquième plus gros transfert de l'été qui s'est conclu aujourd'hui. C'est du côté du PSG en provenance de l'Eintracht Francfort. Randal Kolo Muani, donc un Français, qui rejoint le PSG pour autour de 90 à 95 millions d'euros. Oh. Donc le PSG qui a été capable de se faire de l'argent avec Neymar, finalement, il faut croire, parce que ça bloquait un peu leur fenêtre de transfert durant la saga Mbappé. Mais là, il faudrait chercher, on en parlait tantôt, Gonçalo Ramos, Asensio, Ugarte, bref. Qu'est-ce que tu penses de Kolo Muani qui vient renforcer l'attaque du PSG à gros prix, là, quand même?
Ben écoute, Kolo Muani, c'est un joueur qu'on connaissait très peu avant l'année passée, il faut le dire. Joueur âgé 24 ans, attaquant. On l'a surtout connu en partie l'année passée grâce à son éclosion avec Francfort, mais surtout aussi on l'a connu à l'équipe de France. Notamment lui qu'on ne s'attendait pas à le voir avoir beaucoup de minutes de jeu dans la Coupe du Monde, mais grâce aux blessures, ben, malheureusement pour l'équipe de France et peut-être heureusement pour sa carrière à lui, il a eu le droit à des moments, à beaucoup de temps de jeu. Il a marqué un gros but, il faut le rappeler, en demi-finale de la Coupe du Monde contre le Maroc, qui a aidé son pays à se qualifier pour la finale de la Coupe du Monde. Puis surtout, la raison pour laquelle Randal Kolo Muani est surtout connu, c'est pour son raté à prolongation. Il faut le dire, c'est quand même un arrêt exceptionnel d'Emiliano Martinez, mais. Ça reste qu'il est connu surtout pour cette raison-là, mais c'est un attaquant quand même qui s'est très bien débrouillé l'an passé à Francfort. Moi, je trouve, honnêtement, je suis pas mal certain qu'on ait du même avis là-dessus, mais c'est excessivement c'est très cher payé là, pour Colomouani. Ouais. Moi, c'est non seulement c'est le prix, mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est... Moi, je trouve que le PSG, au niveau de leur attaque, surtout avec Kylian Mbappé, qui finalement reste encore une fois au Paris Saint-Germain, ben, tu n'avais pas besoin d'être renforcé à l'attaque. Bon, oui, écoute, c'est quand même fou de dire que tu perds Messi et Neymar, puis que tu n'as pas l'impression que tu as perdu tant de gros morceaux que ça. Mais écoute, l'équipe de Paris Saint-Germain, comme tu as mentionné, tu as l'arrivée de Gonzalo Ramos, tu as l'arrivée d'Ousmane Dembélé, tu as l'arrivée de Marco Asensio. Déjà là, avec Kylian Mbappé, tu as quand même quatre joueurs qui vont faire partie du 11 partant du Paris Saint-Germain normalement. Puis, tu rajoutes de ça également à Randal Kolo Muani qui est clairement au prix qu'il a été acheté un titulaire et même devrait être un titulaire indiscutable quand tu es un joueur qui est au-dessus de 90 millions.
Ouais.
Mais là, c'est vraiment intéressant de voir qu'est-ce que le PSG va faire avec Randal Kolo Muani. Moi, je suis surtout de voir comment Luis Enrique va gérer tous ces attaquants-là parce que, écoute, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, moi, il y a encore des grosses lacunes. Quand tes deux meilleurs milieux de terrain sont Ugarte, que tu as mentionné, et surtout le jeune Warren Emery, qui est exceptionnel, mais il est seulement âgé de 17 ans. Donc, ouais. Est-ce que tu peux vraiment miser sur un enfant de 17 ans pour contrôler ton milieu de terrain? Ouh, ça, c'est toute une mission. Sur un jeune homme de 17 ans qui est à ses premiers pas dans les rangs professionnels. Donc, c'est très cher à payer. Randal Kolo Muani, je ne suis pas certain que ce soit la meilleure décision pour lui d'aller au Paris Saint-Germain. Peut-être que ça aurait pu l'être si Kylian Mbappé était parti. Mais là, avec Kylian Mbappé qui reste, avec Ousmane Dembélé qui est arrivé, avec Gonzalo Ramos qui est en avant à la pointe, puis t'as Asensio, faut...
Ouais.
C'est. Moi je comprends plus ou moins cette décision-là du Paris Saint-Germain.
Ben, je suis totalement d'accord avec toi. Randal Kolo Muani, c'est un attaquant qui est assez rapide, qui est fougueux, qui est capable de créer des jeux aussi parce que 15 buts, 11 passes décisives en Bundesliga l'an passé, 32 matchs. Donc, c'est un de très bonnes statistiques quand même. Mais là, tu t'en as parlé, là, c'est que là, est-ce que c'est lui qu'on met à la pointe de l'attaque? On va interchanger lui et Gonzalo Ramos. Est-ce qu'on va mettre Kolo Muani à droite ou est-ce qu'on a déjà Asensio et Ousmane Dembélé? Fait que, est-ce qu'on a trois joueurs qui pourraient être titulaires à droite? Ça me semble beaucoup pour le PSG. Donc, je suis très d'accord avec toi là-dessus. Je pense que de renforcer le milieu de terrain, ça aurait été vraiment la chose à faire pour le PSG parce que là, on a Vitinha, on a Ugarte et on a... Warren, Zaïre Emery, j'ai dit Wair tantôt, je suis désolé.
C'est Warren. C'est
Warren. Ouais, Warren, c'est toi qui as raison.
Ouais.
Fait que, tu sais, là, on a ces trois-là. Après, ce qui n'est pas un mauvais milieu de terrain, même si ça pourrait être mieux. Mais après ça, c'est surtout que tu n'as pas de profondeur de rien.
T'as encore des salaires.
C'est pas ça que tu veux comme profondeur, je suis désolé. Ce n'est pas, tu sais, t'as une blessure, puis ça va être Fabian Ruiz ou Carlos Soler ton milieu de terrain.
Puis non, techniquement mais c'est, là... aussi, là, faut pas oublier, là, techniquement aussi, t'as Verratti qui est encore là. Finalement, il est pas parti, donc ça va être intéressant d'avoir Verratti, c'est capable de jouer plus que 30 minutes. Au moins, il pourrait se débrouiller, là. Mais c'est quand même fou, parce que quand tu regardes cette équipe du Paris Saint-Germain, t'as une attaque de feu, t'as une défense qui s'est encore une fois améliorée, parce que là, faut pas oublier, ils ont été chercher Milan Skriniar de l'Inter de Milan et également Lucas Hernandez aussi. Et tu jumelles ça avec Marquinhos, avec Hakimi qui est encore là, Nuno Mendes. T'as Kimpembe aussi, presque Kimpembe qui est encore là.
Qui est blessé, là, je pense.
Qui est blessé en ce moment. Mais il va pas être blessé toute la saison. Donc, tu travailles avec une belle défense. Puis, t'as Gianluigi Donnarumma dans les buts. Donc, c'est fou quand même comment il y a un trou énorme, je trouve, au milieu de terrain. C'est ça le problème, c'est qu'il manque un milieu de terrain établi qui est capable de prendre le contrôle de la partie dans les moments un peu plus difficiles. Parce que c'est ça que j'ai peur du côté du Paris Saint-Germain. On sait très bien que le PSG, dans les moments faibles, ils ont tendance à s'écrouler de façon assez dévastatrice. Puis, Même, et puis ça, on parle même avec des joueurs d'exception comme Lionel Messi ou Neymar, même là, c'est arrivé. Donc, si tu n'as même plus des joueurs de cette trempe-là, puis que là, tu te retrouves avec un milieu de terrain inexpérimenté, ben, oh, ça risque d'être long. Surtout avec, on va en parler un peu plus tard, mais avec des champions qui arrivent, puis leur groupe qui est le groupe de la mort, ça sera pas facile pour Paris Saint-Germain, là, loin de là.
Mais c'est ça, tu en as parlé, mais j'ai encore l'impression que le PSG fait la même erreur qu'ils ont fait dans les dernières années, c'est-à-dire de ne pas renforcer, de trop renforcer un certain secteur de jeu et de ne pas assez renforcer un autre qui est le milieu de terrain. Parce que, encore une fois, là, comme tu as dit, on a bien amélioré la défense, on a amélioré l'attaque trop probablement, puis on a négligé le milieu de terrain. Puis c'était ça le problème dans les dernières années. Tu parlais de Messi, Neymar. Si on n'est pas capable de leur transmettre le ballon, si ils récupèrent le ballon trop bas sur le terrain, c'est sûr que ça va diminuer tes chances de marquer puis ton punch offensif. Donc, il faut un solide milieu de terrain capable de compétiner avec les grands milieux de terrain d'Europe, en Ligue des Champions notamment. Ça peut faire pour gagner la Ligue 1, mais comme tu as mentionné dans le groupe de la mort, c'est vraiment autre chose. Fait que c'est ça pour Colomoigny. Donc récapitulatif très cher. Et puis, est-ce que c'était vraiment le transfert à faire aussi? Ensuite, troisième plus cher transfert de l'été. Ça aussi, ça a été toute une saga. Moises Caicedo du côté de Chelsea, qui d'abord était censé partir du côté de Liverpool. L'accord avait été fait avec Brighton. Mais finalement, Chelsea, c'est. A proposé une offre également. Caicedo a dit: je ne veux pas Liverpool, je veux Chelsea. Caicedo est allé du côté de Chelsea, donc pour 116 millions d'euros. Énorme prix. Encore une fois, on est d'accord là-dessus, les deux trop élevés, même si Caicedo a connu une bonne saison l'an passé à Brighton. Il a joué aussi, si je ne m'abuse, à la Coupe du Monde, Caicedo, avec l'Équateur. Ouais. Oui,
Ouais,
il a joué.
ouais.
Avec son coéquipier Stupinan d'ailleurs.
Ouais.
Mais ouais, Caicedo à Chelsea, écoute, je nie pas ses qualités de milieu défensif, mais 116 millions d'euros pour un gars dont on ne parlait pas tant que ça l'an passé, même s'il a connu une bonne saison.
Je trouve ça incroyable, qu'est-ce qui se passe en ce moment en Première Ligue. Donner autant d'argent à des milieux défensifs, c'est quelque chose que moi, j'aurais jamais pensé de voir dans ma vie. Oui, c'est une bonne chose
Là, on est
qu'enfin les milieux
payé.
défensifs obtiennent de la reconnaissance de la part des clubs, mais force est d'admettre que quand c'est rendu que tu donnes 116 millions d'euros à un joueur quand même, encore une fois, très peu expérimenté en Caicedo, est-ce que c'est vraiment la bonne décision de la part de Chelsea? Je ne sais pas. C'est sûr que Chelsea avait besoin de renforcer leur milieu. C'est ça qu'ils ont fait. Et avec le départ de Kanté, avec le départ de Kovacic, là, tu as Mason Mount qui est parti, Calvert qui est parti. Tu n'avais pas le choix de comme tout. Oui, puis Jorginho aussi qui était parti au mois de janvier aussi. Donc, tu n'avais pas le choix de tout reconstruire ce milieu de terrain-là. Bon, tu as Enzo Fernandez qu'on sait que pour l'avenir du côté de Chelsea, il est quand même prometteur. Seul le temps va nous dire pour le reste. Puis là, tu rajoutes un Caicedo. C'est cher à payer. Je trouve ça cher à payer, encore une fois. 116 millions je vais encore répéter, mais 116 millions d'euros pour un milieu défensif qui n'était peut-être même pas dans le top 5 en première ligue la saison dernière. C'est quand même assez risqué de la part de Chelsea. Puis c'était autant risqué aussi de la part de Liverpool aussi, là. D'aller chercher un milieu de la sorte. Bon, moi
L'offre
j'ai
de
vraiment
Liverpool
l'impression.
était un peu plus basse que celle de Chelsea, mais ça reste que c'était trop cher aussi.
Mais est-ce que c'était. Il me semble que c'était dans les 100 millions aussi, là,
Ouais, c'est ça.
pour
C'était à
Caicedo.
peine plus bas que Chelsea, je crois.
C'est
C'était
ça.
peut-être 105 ou 110, là.
Ouais, c'est quand même assez fou, là, quand tu regardes le prix de ces deux équipes-là. Mais c'est. Encore une fois, c'est juste. C'est aberrant, puis. Puis c'est ça, honnêtement, c'est ça le temps va nous dire si c'est une bonne décision de la part de Chelsea ou non. Parce que en ce moment, c'est sûr que c'est facile de dire: ah ouais, c'est une mauvaise décision, c'est trop cher à payer. Mais là, il faut laisser un peu de temps à Caicedo pour s'adapter avec cette nouvelle formation. Puis des fois, c'est difficile pour des joueurs avec une aussi grande valeur de s'adapter avec la nouvelle équipe. Donc moi, j'ai vraiment hâte de voir comment Casado va se débrouiller à Chelsea, mais encore une fois, c'est cher payé. Puis je dis la même affaire aussi avec Declan Rice aussi du côté d'Arsenal qui a été acheté à peu près dans le même prix que Casado. Ça aussi, je trouve que c'est aberrant parce que Declan Rice, c'est un autre sujet là aussi. Là. C'est la taxe anglaise qui rentre. C'est un joueur qui joue en équipe d'Angleterre. Il y a 24 ans. C'était le meilleur joueur de West Ham. West Ham qui est une équipe qui se débrouille bien depuis, depuis plusieurs années en Première Ligue. Qui a gagné l'an passé la Conference League. Donc, c'est fou quand même de voir un joueur de la trempe de Casado coûter autant cher. Moi, la question que je me pose, c'est imagine-toi le prix d'un Prime Busquets.
Ouais.
Ce serait même pas, ce serait minimum 200. Là. C'est ouais. Fou. Là. Donc,
ouais, c'est sûr que là, il y a l'inflation qui rentre en ligne de compte là, si on compare aux années précédentes, mais c'est... Tellement d'accord avec toi, c'est aberrant. C'est le bon mot que tu as utilisé, mais pour parce que là, on ne pouvait pas s'empêcher de chialer sur Arsenal, même si Thomas n'est pas là. Mais le prix de Rice, en fait, est peut-être un peu plus explicable que celui de Caicedo parce que ça fait longtemps qu'on en parle, parce que il est plus reconnu dans les dernières années que Caicedo. Caicedo, j'en ai entendu parler de lui l'an passé, puis c'était pas... quelqu'un qu'on voyait ressortir pour valoir 116 millions d'euros. Fait que peut-être que Rice, ça s'explique un peu plus, même si c'est trop haut dans les deux cas, tant qu'à moi. Puis c'est un transfert qui est quasiment le même montant. Là. Fait que est-ce que c'était tu voulais acheter quelque chose sur Caicedo, Rice ou peu importe?
Non. À part que c'est juste trop cher. Là. Honnêtement, c'est juste trop cher.
Ben oui. Ensuite, aujourd'hui, en fait, dans les derniers jours, là, Manchester City a officialisé un départ et deux arrivées. Les deux arrivées sont Matheus Nunes, un Portugais donc, qui rejoint City pour 62 millions. C'est un milieu de terrain lui aussi. Donc, on renforce le milieu de terrain du côté de City. Nunez, j'en ai un peu entendu parler aussi, mais il jouait à Wolves, si je ne me trompe pas. À
Wolverhampton. Ouais, il a passé, ouais.
Puis, écoute, je regarde vraiment pas beaucoup de matchs de Wolverhampton, mais c'est ça. Encore une fois, ça me semble cher pour un joueur dont on a peu entendu parler, mais en même temps, 62 millions d'euros, je pense qu'il va falloir s'habituer parce que même des transferts dont on ne connaît pas trop les joueurs, ça risque de ressembler à ça, les prix dans les prochaines années. Puis aussi, Jérémy Doku, lui qui est un joueur, un Belge de 21 ans, un ailier. Très intéressant ça, du côté de City. Je ne pense pas qu'il va avoir beaucoup de temps de jeu pour cette année là en attaque avec les Bernardo Silva, les Jack Grealish, les Phil Foden. Je pense que c'est quand même une belle prise là, pour City parce que c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel. Fait que, et aussi Cole Palmer qui est parti du côté de Chelsea aujourd'hui pour quelque chose comme 45 ou
c'est beaucoup, ça
libère de la place pour City pour faire jouer les joueurs qu'on est allé chercher. Mais bref, un mot sur ces arrivées-là et ce départ aussi. Là, ici.
Nunes, je ne connais pas tant, mais moi, c'est surtout Jérémy Doku que j'ai ouais. suivi pas mal en Ligue 1 là, les dernières années. Là. Moi, Jérémy Doku, ouais, ça.
Je ne sais pas exactement comment on le prononce.
Je pense que c'est Doku. Doku. Bref, un gars avec extrêmement de potentiel. Ultra rapide, très technique, seulement âgé de 21 ans. Il risque d'être possiblement dans les prochaines années un des joueurs à surveiller en Belgique. Puis écoute, il était quand même. Moi je le trouvais franchement impressionnant qu'il joue au Stade Rennes l'année passée. Donc, moi, Jérémy Doku, je trouve ça assez intéressant de la part de Manchester City d'aller chercher un joueur de la sorte parce que c'est un joueur qui a un potentiel fou. Puis si Pep Guardiola est capable de bien l'encadrer puis de lui donner du temps de jeu, je pense que c'est un joueur qui peut facilement s'épanouir à City. Là. Donc, moi, je serais content d'avoir un joueur comme Jérémy Doku qui a la possibilité d'aller dans un grand club comme Manchester City, puis surtout la possibilité de se développer avec des grands joueurs comme ceux qui jouent en ce moment à Manchester, surtout que c'est une équipe qui vient toujours de remporter un triplé. Donc, moi, je trouve ça hyper intéressant, cette arrivée-là à Manchester City.
Tout à fait, très, très d'accord avec toi. Mais là, c'est ce. Je regarde les ailiers, parce que Doku est un ailier droit. Je regarde les ailiers droits du côté de City. Ça n'a pas de l'air d'être si contingenté que ça. Donc, peut-être qu'il pourrait avoir des matchs titulaires de coup du côté de City. Il y a Mahrez qui c'est peut-être un sort de remplaçant à Mahrez qui jouait à droite et qui est parti du côté de Al Ahly en Arabie Saoudite. Mais ça va être très intéressant de voir. Mais Matheus Nunes, là, 62 millions pour un gars qui va, j'ai l'impression, ne va presque pas jouer encore là, parce qu'on a Rodri, on a Kovacic, on a Bernardo Silva, on a De Bruyne.
Ben, De Bruyne est blessé pendant un bout.
Ouais, c'est donc, ça.
Ça va peut-être aider pour lui.
C'est vrai qu'il va peut-être obtenir des minutes puisque De Bruyne n'est plus là. Mais si on suit à Calvin aussi. Phillips, malgré les blessures, Calvin Phillips ne jouait pas. Fait que. Bref, j'ai hâte de voir Nunes qui va jouer. Mais oui, de coup, très d'accord avec toi, très intéressante signature. Puis c'est à 60 millions, c'est une signature qu'on base sur le potentiel parce qu'il a montré des choses à date certainement, mais ce n'est pas nécessairement pour ce qu'il a montré. Son prix, j'ai l'impression, c'est vraiment plus pour ce qu'il pourrait devenir. Et je pense que ça vaut la peine là, de mettre 60 millions sur un joueur de la sorte. Ce sera à suivre. Puis pour ce qui est de Cole Palmer du côté de Chelsea, fait intéressant avec le transfert de Cole Palmer. Pas Manchester City, Chelsea a officiellement dépassé la barre du 1 milliard de dollars en dépenses depuis l'arrivée du nouveau propriétaire Todd Boehly. Donc en 15 mois, c'est pas plus compliqué que ça.
Ouais.
1 milliard en 15 mois, 500 millions juste cet été. Cet hiver, pour un mercato d'hiver, c'était absolument gigantesque comme somme dépensée. Fait que bref, 1 milliard en 15 mois, c'est incroyable. On parle beaucoup de l'Arabie Saoudite qui dépense énormément, mais la Premier League, Chelsea, c'est assez fou aussi. Là.
Je pense qu'on n'a pas besoin de revenir sur Chelsea. Là. On en a souvent assez parlé. Là. Cette équipe-là va nulle part. Je suis désolé, là. Elle ne va nulle part. Elle peut dépenser autant qu'elle veut, mais ça, j'ai même plus les mots. Là. C'est pour dire à quel point que cette équipe-là, j'ai de la peine pour Chelsea parce que c'est une équipe qui, en 2003, avait été rachetée par Rich Russ
Abramovich
qui avait su transformer cette équipe-là en une équipe championne, une équipe qui a été capable de remporter plusieurs premières ligues, a remporté deux ligues des champions. C'est une équipe qui avait une structure, je dirais pas parfaite, mais une belle structure pour les années à venir. Puis malheureusement, les circonstances actuelles ont fait en sorte que Abramovich est obligé de vendre Chelsea et Todd Boehly, qui, il faut le rappeler, est également le propriétaire des Dodgers de Los Angeles, se retrouve à gérer une équipe de foot alors que dans sa vie, il a juste géré une équipe de baseball. Puis bon, on va pas rentrer dans les stéréotypes, mais on le sait que les Américains et le football, des fois, ça peut être compliqué hein, au niveau connaissance. Donc, malheureusement, t'es donné des contrats de 8 ans. Déjà là, moi, c'est... Déjà là, je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Quand c'est rendu que tu donnes des contrats de 8 ans à des joueurs de foot, c'est... Moi, je trouve ça... En tout cas, on peut passer à autre chose, là, parce que moi, tu sais, ça me fait juste fâcher pour rien, man.
Ouais.
Juste pour rien.
Je suis complètement d'accord avec toi, puis... peut-être que sportivement, ça va être mieux cette année, que leurs résultats vont être mieux. Mais j'en doute encore. Là, je ne les vois pas top 5 encore une fois cette année. J'ose croire qu'ils vont faire mieux que 12e. Le 12e l'an passé, c'était tout simplement épouvantable. Je ne comprends pas comment Chelsea peut avoir encore des fans avec autant de dépenses et finir 12e de Premier League. Mais bref, à suivre Chelsea. Puis Romeo Lavia aussi, qu'on n'a pas encore parlé, mais qui lui aussi ne jouera pas, probablement, ou presque pas, qui a coûté 62 millions d'euros ou de livres, bref, lui aussi. Fait que, bref, pensons à autre chose. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Chelsea dans les récents épisodes. D'autres transferts, là, rapidement, dont on pourrait jaser. Il y a les prêts, deux prêts barcelonais. du côté qui ont été officialisés aujourd'hui, là, ben, comme on s'en parlait, Cancelo, ça faisait quelques semaines que c'était dans l'air. Mais wow, Félix, donc, qui était à l'Atlético Madrid, qui est passé par Chelsea, mais finalement a été prêté au Barça et tout comme wow, Cancelo, qui était au Bayern l'an passé, mais qui appartient à Manchester City. Donc, du renfort côté barcelonais en attaque et sur le côté gauche de la défense ou droit, parce que Cancelo peut jouer des deux côtés. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses?
Écoute, quand même intéressant que le Barça décide d'aller chercher deux joueurs. Moi, je trouve ça exceptionnel. Mais aussi, bon, pour répondre à ta question, moi, celle de Cancelo, je la trouve très, mais très intéressante. On l'a vu, qu'est-ce qu'il pouvait faire à Chelsea, le fait qu'il peut jouer des deux côtés. Bon,
À City, pas Chelsea.
J'ai dit à Chelsea, ma bad. Je vais dire à Manchester City. Désolé, je me suis trompé d'équipe. Là, c'est tout le temps l'absurde. Ouais, on dirait à quel point Chelsea a marqué. Mais pour dire, on l'a vu du côté de City dans les années. C'est un joueur qui peut autant jouer à droite qu'à gauche. C'est un gars qui a été formé comme latéral droit, mais qui a souvent été utilisé comme gauche, dû au fait qu'il y avait Kyle Walker du côté City. L'année passée, City avait décidé de prêter Cancelo du côté de Munich, ce qui avait été quand même surprenant à ce moment-là.
Parce que Davies était clairement celui à gauche.
C'était là. Peut-être le Bayern venait d'aller chercher Mazraoui, Benjamin Pavard. Est-ce qu'il avait vraiment besoin d'acheter un Cancelo? Bref, on ne va pas revenir là-dessus.
Avec Lucas Hernandez.
Mais c'est ça. Du côté de FC Barcelone, tu avais qui vraiment du côté droit? Tu n'avais pas...
Alejandro Balde.
Tu avais Balde, qui est un jeune. Puis, tu as Sergi Roberto, qui est un joueur d'expérience. Mais Sergi Roberto, il ne sera pas titulaire, là, normalement.
Balde est à gauche, en plus, je pense.
Ouais, Balde est à gauche.
Ça va être qui que tu vas utiliser? Tu vas utiliser Roberto à droite et Cancelo à gauche?
Moi, je pense qu'il faudrait que Barça mette Balde à gauche parce que c'est quand même un jeune qui est rapide et il fait partie de ton avenir. Et également, tu l'es. T'as pas le choix de titulariser Cancelo, là, je m'excuse, mais c'est Roberto, c'est pas titulaire. C'est supposé être un joueur de profondeur, là, normalement. Mm-hmm. Mais bref. Ça va être intéressant ce qui va se passer du côté de Barcelone parce que même avec leur défense, il y a quand même une belle défense hein, avec Koundé, avec Araujo aussi qui est leur défenseur numéro 1 techniquement. Puis tu as Christensen aussi qui est encore là. Donc,
tu joues très bon soccer, Christensen.
Ouais, c'est ça. Donc tu as une belle profondeur du côté de la défense. Puis à l'attaque du côté de Barcelone, moi je joue à Félix, je suis vraiment pas fan de lui. J'ai toujours trouvé que ça avait été une erreur monumentale de la part de l'Atlético Madrid de chercher un jeune homme de 19 ans, Cancelo, João Félix, qui jouait, si je ne me trompe pas, du côté. C'était Benfica, si je ne me trompe pas, non?
Ouais. Je pense que c'est le transfert le plus cher de l'histoire de Benfica.
C'est ça. À 126 millions pour un jeune homme de 19 ans à l'époque qui. Avait rien prouvé à son valeur, ce qui avait vraiment été du potentiel. Puis, tu mets un joueur comme João Félix qui aime beaucoup s'exprimer dans les ailes, qui est un joueur qui a beaucoup de potentiel dans une équipe comme l'Atlético Madrid qu'on connaît, c'est une équipe très rigide avec un jeu qui permet presque pas aux attaquants de s'exploiter et surtout aussi de s'exprimer sur le terrain. Et malheureusement,
il peut pas déroger du système là, dans le système de Diego Simeone.
Diego Simeone, puis évidemment, au début de l'année 2023, quand l'Atlético Madrid avait décidé de prêter João Félix côté de Chelsea, ben, à ce moment-là, on pensait que ça pouvait aider João Félix, puis malheureusement, ça n'a pas pu s'aider. Donc, je commence à penser que c'est un constat d'échec, João Félix, non seulement à l'Atlético Madrid, mais juste dans sa carrière pour l'instant, mais il est quand même jeune, il est encore âgé de 23 ans, donc il a encore le temps devant lui. Là, mais encore une fois, si ça peut aider à le relancer, tant mieux. Mais moi, je ne pense pas que le Barça ait une option pour se relancer dans son cas à lui. Là, surtout que le Barça, maintenant, c'est pas le Barça d'il y a 2 ans qui était vraiment dans le trouble. Puis, c'est pour moi... Moi, je pense que c'est juste pour jouer à Félix, c'est juste une manière d'essayer de se relancer, mais je ne suis pas certain que ça va marcher du côté de Barcelone. Mais écoute, on ne sait jamais ce qui peut se passer.
Ouais, puis aussi, du côté du Barça, il y a Ansu Fati qui est parti en prêt du côté de Brighton. Donc, ça aussi, c'est intéressant à voir, ce move-là. Mais voilà, Joao Félix vient renforcer le secteur offensif de Barça. Ça va être intéressant de voir. Je pense que s'il est capable de faire parler sa créativité avec un Lewandowski, Gavi, Pedri, Gundogan aussi qui est rendu là, ça peut être intéressant de voir où est-ce qu'on va le mettre dans ce mix-là.
Ferran Torres aussi, faut pas oublier aussi.
Ferran Torres. Oui, il est bon début de saison de la part de Torres d'ailleurs. Mm-hmm. Je pense que ça peut être intéressant, mais c'est ça, c'est à lui de prouver. Puis aussi, toi, tu disais que tu pensais peut-être que Félix était commençait à devenir un flop plus les années avançaient. Mais il faut croire que l'Atlético n'est pas d'accord avec toi parce que je ne sais pas si tu as vu, mais malgré qu'ils ont prêté Félix au Barça, ils l'ont prolongé jusqu'en 2029. Donc, ouais. Ça, c'est rare que j'ai vu ça, des clubs qui prolongent leurs joueurs alors qu'ils viennent de le prêter. Là. Donc, c'est quand même intéressant. Ça veut donc dire que on peut peut-être, je ne connais pas la clause exactement, mais peut-être que s'il fait bien au Barça, on pourra le prêter une deuxième saison au Barça, puis ensuite qu'il revienne à l'Atlético plus tard. Mm-hmm. Bref.
Moi, je ne suis pas certain. Moi, je penserais plus que si ça fonctionne bien du côté de FC Barcelone, ils vont peut-être mettre une clause d'achat obligatoire au FC Barcelone puis essayer de récupérer l'argent qu'ils avaient investi il y a 4 ans du côté de l'argent qu'ils ont donné littéralement à Benfica. Là. Donc, moi, je pense plus que ce serait cette option-là, mais écoute, c'est particulier qu'est-ce que tu viens de dire là. Je ne savais pas du tout qu'il a prolongé jusqu'en 2029, mais
j'ai tout pensé tantôt. Mais c'est ça, mais oui, c'est une hypothèse intéressante, là, le fait qu'on fait une fois une obligation d'achat au Barça. Mais si ça ne marche pas au Barça, pourquoi est-ce qu'on le prolonge tout de suite d'abord? C'est ça que je me dis. Si ça ne marche pas au Barça, il revient à toi, puis c'est encore un problème qui est dans tes mains. Là, fait que...
Mais moi, tu vois. Moi, j'aurais trouvé ça intéressant que Joao Félix soit prêté dans une équipe un peu comme tu fais à Brighton, là, mais tu es une équipe pas de seconde zone, mais tu es une équipe d'une prestance un peu plus bas. Là. Par exemple, une équipe comme Séville ou Valence, une équipe comme Dortmund aussi, une équipe comme Naples, tu sais, qui sont des grosses équipes, des grosses têtes d'affiche d'Europe. Mais ils ne sont pas dans la catégorie genre Barcelone, Madrid, Manchester City, à la limite Liverpool, mais aussi le Bayern. Dans ces rangs-là, là, t'es un rang juste un cran en dessous, mais quand même des bonnes équipes qui pourraient permettre à Joao Félix de vraiment s'exprimer. Puis là, peut-être que Joao Félix pourrait récupérer son niveau de jeu puis peut-être atteindre son fameux potentiel qu'on attendait de lui il y a 4 ans. Quand l'Atlético Madrid avait décidé d'aller le chercher du côté de Benfica pour 126 millions d'euros, ce qui est quand même assez incroyable pour
un jeune homme. C'était pas plus que 126?
Non, c'était 126 millions, ouais.
OK. Ouais. Mais ce qui me fait rire là-dedans, c'est que tu as dit club de gros calibre et que tu as nommé Séville, qui est dernier de Liga présentement.
Non, je sais, non, mais je parle d'une équipe de... Normalement, c'est supposé être une équipe qui, je dirais, un cran dessous. Tu sais, oui, on se moque de Séville, mais ils ont quand même remporté l'Europa League.
Oui, c'est ça. Puis, ils ont gagné l'Europa League en étant mauvais en Liga, tu sais. Fait s'ils ont été capables de se démarquer dans les compétitions européennes.
Ils sont en Ligue des Champions en ce moment aussi. Là.
C'est ça, mais c'est ça. C'est, hey, ça, là, Arsenal, on va en parler tantôt, mais ils doivent être contents parce que, en tout cas, c'est des équipes, des fois, qui sont capables d'être mauvais dans leur championnat respectif, mais que l'ambiance, le rythme est complètement différent en compétition européenne, puis c'est ça que Séville fait. Donc, voilà pour ça. Ah oui, aussi, on parlait des latéraux tantôt du Barça, et en me promenant, j'ai vu un certain latéral qu'on a oublié de parler, là, du coup, mais qui est à Barcelone, que Baldé devrait prendre la place, j'imagine, parce que Baldé n'était pas titulaire le dernier match. Est-ce que tu sais de qui je parle? Un latéral gauche du côté de... Pas gauche, droit, excuse, du côté de...
De Barcelone?
Non, attends, latéral gauche du côté de Barcelone, ouais, qu'on n'a pas encore parlé, mais qui était titulaire à la place de Balde dans les matchs.
Qu'on n'a pas parlé.
Et honnêtement, je ne comprends pas pourquoi il était titulaire. Là. Genre, autant toi que moi, on ne comprend pas pourquoi il a sa place dans l'effectif. Là. Marcos Alonso.
Oh oui! Oh non, j'avais oublié! Oh my
ouais,
god!
Et c'est lui qui était.
Le tireur de coup franc, le spécialiste de coup franc.
Oui.
Marcos
oui.
Asensio. Pas Asensio, mais Alonso.
Alonso, oui. Ouais, ben c'est ça. C'est... Ouais. Écoute, moi, je ne comprends pas. J'espère que M. Xavi va faire jouer Balde puis Cancelo de l'autre côté. Mais bon, ça va être à suivre pour ça. Là, pour ce qui est du mercato, est-ce qu'on a fait le tour? Oh, attends, il nous manque une personne à parler, bien entendu, du côté de Liverpool. Ryan Gravenberch, qui s'est joint hier à Liverpool pour 40-45 millions d'euros dans ce coin-là. Déjà là, oui, c'est peut-être un peu cher pour un joueur qui a presque pas joué au Bayern l'an dernier. Mais quand même, c'est en bas d'un Romeo Lavia ou quelque chose comme ça. Puis je pense que Gravenberch va plus jouer que Lavia avec Liverpool, que Lavia du côté de Chelsea. Et bon, ben c'est une révolution complète au milieu de terrain pour Liverpool avec Szoboszlai, McAllister, Wataru Endo, qu'on n'a pas encore parlé, mais japonais qui s'est joint après les échecs de Lavia et Caicedo du côté de Liverpool. Et là, on rajoute Ryan Gravenberch. Qui donc, c'est quatre milieux complètement, totalement différents. Puis ça va être les quatre milieux qui risquent de le plus jouer avec Liverpool cette saison, considérant que Thiago Alcantara est très souvent blessé. Donc, ton impression sur Ryan Gravenberch?
Écoute, Gravenberch, comme on le sait, pas beaucoup joué la saison dernière avec le Bayern. Bon, le Bayern, qu'est-ce qui est assez particulier, c'est qu'il avait acheté pour 18 millions, puis là, il le revend à 40, puis là, il revend Gravenberch à Liverpool pour 45 millions. Ça, c'est assez particulier. Moi, j'aime bien Gravenberch. Pour vrai, c'est un joueur qui est assez polyvalent, je dirais, mieux défensif, costaud. Je trouve que c'est un joueur qui pourrait facilement fonctionner du côté de Liverpool. Un gars quand même là, ici c'est 3, mieux défensif, va réussir probablement à combiner également avec McAllister et surtout Szoboszlai qui est un grand fan. Mais McAllister aussi, on va en parler. De McAllister pour l'instant, là, quel achat de la part de Liverpool. Il est sensationnel. Szoboszlai
et McAllister sont...
Les deux sont sensationnels, mais moi McAllister...
Endo, au début plus difficile, là, mais avec l'arrivée de Gravenberch, je pense pas qu'il va être. Ça va peut-être être plus un remplaçant, Endo. Donc, mais oui, je suis très d'accord avec toi pour Szoboszlai et McAllister. Quelle signature. Ouais. Et Gravenberch, il faut se rappeler, il est très jeune. Là, il a 21 ans. Donc, puis avant qu'il aille au Bayern, il jouait à l'Ajax. Et on en parlait comme un des meilleurs phénomènes au milieu de terrain quand il était à l'Ajax. Puis là, au Bayern, ben, on n'en a pas plus entendu parler parce qu'il ne jouait pas assez. Mais là, s'il est capable de tenir du temps de jeu puis de revenir dans les bonnes grâces, dans de bonnes passes comme il était à l'Ajax Amsterdam, je crois vraiment que ça pourrait devenir un très bon joueur. Alors, je suis assez content de cette signature-là, même si, oui, c'est vrai que Bayern ont bien joué là, de l'acheter 18 millions puis de le revendre presque 30 millions de plus. Donc, dans l'ensemble, je suis assez content, surtout que Liverpool, on va pas se le cacher, avait besoin encore de renforts au milieu de terrain. Toi, est-ce que tu es content de la signature?
Ouais, moi, je suis très content de la signature. Je trouvais ça assez particulier de faire jouer McAllister un peu plus bas. Là, ça va vraiment permettre à McAllister et à Szoboszlai de pouvoir vraiment s'exprimer davantage au milieu de terrain, puis surtout dans l'attaque de Liverpool avec Darwin Núñez en forme. Avec un Mohamed Salah qui offre des caviars, avec un Luis Diaz qui est en grande forme.
Oh là là. Pour vrai. On va voir comment faire avec Cody Gakpo aussi. Là.
Ah non, mais Cody Gakpo, pour vrai, c'est très difficile. Cody Gakpo, c'est le seul qui du côté de Liverpool que c'est pas facile. Voir jouer, là, c'est.
Ben, c'est pas facile. Trent Alexander-Arnold là, aussi, là, qu'on espérait qu'il se remette dans ses niveaux de 2019-2020, 2021, genre, mais ouais. C'est plus difficile, surtout le dernier match.
Ouais, c'est très difficile. Mais ouais, moi, je suis très content avec Gravenberch. Là, Là, tu viens de vraiment remplacer Fabinho, entre guillemets. Ça va vraiment aider. Puis Fabinho aussi était vieillissant, donc ça fait du bien de voir ramener quelqu'un qui est, comme tu l'as mentionné, Gravenberg, qui, pas plus tard qu'il y a 2 ans, était considéré comme un des milieux de terrain les plus prometteurs au monde. Puis maintenant, il joue à Liverpool. Vient d'une école comme celle de l'Ajax, qui est une école formidable pour former des jeunes joueurs. Écoute, ça va être très, très, très prometteur d'avoir Gravenberg avec Liverpool. Mais en même temps, il faut lui donner un temps d'adaptation. Le gars, il a pas beaucoup joué son dernier à Munich. Donc, ça se peut qu'il soit rouillé. Mais là, je suis très confiant avec le milieu de terrain qu'ils ont là, en ce moment à Liverpool. Très, très, très confiant.
Très, très d'accord avec toi. Puis Gakpo, je pense que... Je suis d'accord avec toi que ça ne va pas bien jusqu'à maintenant cette saison, mais c'est un joueur qui a du talent, là, qui a un gros talent, Gakpo. Fait, faut juste que Klopp réussisse à y trouver une certaine place, dans que ça soit sur le banc ou sur le 11 partant, là, parce que je suis convaincu qu'il peut apporter quelque chose à Liverpool. Ben, si ce n'est pas à Liverpool, il peut apporter quelque chose à une autre équipe, en tout cas Gakpo, parce que c'est un joueur de talent. Mais c'est sûr que ça ne marche pas... jusqu'à maintenant, cette saison. Puis on l'utilisait en milieu de terrain. Il y a quelque chose qui ne marchait pas là-dedans. Mais bref, Darwin Núñez, Luis Diaz, puis Mo Salah, ceux que tu as nommés, je pense qu'en ce moment, c'est clair que c'est notre trio offensif. Ben, je dis notre parce que, voilà, Liverpool. Là. Mais ça va être à suivre. Puis la seule affaire, c'est la défense du côté de Liverpool. Là. Si on peut en parler un petit peu, là, on n'a pas renforcé le secteur défensif, tu sais. Van Dijk, le Konaté est un peu blessé en plus. Joe Gomez, il y avait des dires comme quoi il pourrait partir en Arabie Saoudite. Il semble rester jusqu'à maintenant. Matip, très vieillissant. On a, plusieurs partisans de Liverpool, moi y compris, auraient voulu du renfort en défense centrale. Et même peut-être du côté d'une doublure à Arnold. Mais ce n'est pas arrivé, c'est ça qui m'inquiète du côté de Liverpool, parce que le milieu, je pense qu'on peut dire mission réussie.
Non, pour l'instant, c'est presque parfait. Moi, qu'est-ce que j'aurais voulu aimer, puis ça on s'en avait parlé, puis tu viens juste de mentionner, c'est la doubleur Alexander-Arnold, c'est que là, peut-être que si Liverpool avait décidé d'acheter vraiment un défenseur droit de formation, peut-être que là, Liverpool aurait pu monter Alexander-Arnold au milieu de terrain, puis là, il aurait pu vraiment exprimer ses qualités de passe, ses qualités de dribble, puis là, puis surtout ses qualités de meneur de jeu, parce qu'on sait qu'Alexander-Arnold, au niveau de créer des ouvertures et longues passes, c'est un des meilleurs au monde. Donc là, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Mais moi, je confesse à Alexander-Arnold, oui, il y a des énormes lacunes défensives, mais s'il est capable de rester concentré, puis il est capable de juste s'entraîner, puis juste vraiment améliorer ses lacunes, mais normalement, ça devrait bien aller. Surtout ce qu'il est incapable de couvrir, puis si Van Dijk aussi est capable d'avoir un bon niveau, normalement, ça devrait être pas si peu que ça.
Oui, Van Dijk là, qui est suspendu. En fait, qui a reçu un carton rouge. Là, je ne sais pas s'il a été suspendu pour plusieurs matchs, mais bref. Ça va être à voir. Mais oui, je partage ton avis quand même que je pense que Trent Alexander-Arnold peut se replacer. Bon, pour finir là, sur le mercato, là, Lukaku qui a été prêté à la Roma. Bon, on va pas revenir sur tous les transferts parce que je pense qu'on a fait un bon cercle des principaux. Fait que Doualy est parti, donc je vais vous parler seul pour quelques instants. Mais la Champions League hier, le tirage. Oh, et Doualy est de retour. Voilà, c'était une petite pause. Donc voilà d'où je suis en train de dire pour la Champions League.
Désolé, j'avais pas manqué de batterie, mais là je suis bon.
Super. La Champions League, le tirage, le fameux tirage que l'on attend chaque année, c'était hier du côté de. C'était d'habitude c'est en Suisse, mais là je pense que c'était à Monaco hier le tirage, voilà, dans la principauté de Monaco. Et on a eu droit quand même à. On a parlé du groupe de la mort tantôt qui lui est très alléchant. Mais d'autres groupes assez intéressants aussi, d'autres moins. Donc, on va se lancer là-dedans. Le groupe A, très intéressant, lui, avec deux grosses pointures. Bayern Munich, Manchester United, Copenhague et Galatasaray. C'est intéressant parce qu'on a deux grosses pointures, Bayern et Man U. Mais je vois mal comment ça ne pourra qui ça sera, je vois mal comment ces deux-là ne passeront pas à la prochaine, ronde. Honnêtement, là, ça va être un désastre si ça n'arrive pas.
Oui, du même avis, surtout pour le Bayern. Là. Le Bayern, c'est un groupe qui est favorable pour lui. Mais oui, bon, je t'en ai parlé souvent au cours de la dernière semaine, là, mais moi, Manchester United est une équipe qui ne m'impressionne vraiment pas dans leur style de jeu, la façon de commencer les rencontres. Moi, je trouve que c'est une équipe qui, normalement, ne devrait pas être une équipe de Ligue des Champions, mais là, dans un groupe où tu as Galatasaray et surtout Copenhague, c'est peut-être deux clubs qui sont prenables pour Manchester United. Je vois pas comment United je vois pas United se faire éliminer dès les phases de groupe. Moi, je pense qu'ils vont se faire éliminer en huitième de finale, mais ils devraient se sortir dans la phase de groupe. Puis Bayern, encore plus. C'est surtout le Bayern qui devrait être le grand favori de ce groupe-là.
Tout à fait. Puis Harry Kane qui veut gagner une Ligue des Champions au Bayern Munich. Ni plus ni moins, je m'attends à ce que Bayern finisse largement en premier de ce groupe-là. Et que Harry Kane, je pense que Harry Kane peut être un des meilleurs buteurs de la compétition là, cette année. Là.
Ça va
jouer avec, comme d'habitude, là, les Haaland, les Mbappé. Mais Harry Kane, je m'attends à une très grosse saison de lui, à la fois en Bundesliga et en Ligue des Champions. Ensuite, groupe B, Séville, Arsenal, PSV et RC Lens. Thomas est très content de ce groupe-là. On fait le message à sa place. Mais ouais, c'est un groupe très, très, très prenable pour Arsenal qui est assez chanceux dans les circonstances parce que Séville plutôt, on en a parlé. Bon, peut toujours élever son jeu d'un cran en compétition européenne, mais même à ça, Arsenal se doit de les battre. Ensuite, PSV et Arsenal, c'est en bas en termes de qualité d'Arsenal. Ouais. Moi, ce que je vois comme opportunité pour deuxième place, c'est le Arsenal qui a été. Ouais. Très bon l'an passé. Son effectif a baissé en qualité, mais quand même, je pense que ça pourrait être enfin une opportunité pour les équipes françaises pour une équipe française autre que le PSG, de se rendre plus loin dans cette compétition européenne, ce qui arrive quasiment pas là, dans les dernières années. Là. Les équipes françaises sont très souvent éliminées très tôt dans la compétition. Donc, moi, je vais me lancer avec un Arsenal RC Lens. Je pense que pour plusieurs fans français, ils seraient contents de voir Lens passer au prochain tour. Toi, tu es d'accord avec ça, de ce que je comprends?
Non, moi, je veux Arsenal puis CV s'en sortir. Là.
Arsenal, CV?
Moi, je pense que ça va être la logique va être respectée. Bon, CV, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, c'est une équipe qui est très bonne en Europa League. Donc, peut-être qu'il pourrait se faire éliminer, dès la phase de groupe, puis terminer troisième du groupe. Comme ça, ils vont se retrouver en Europa League. Puis là, peut-être qu'ils vont gagner l'Europa League. Mais là, tu es dans un groupe avec le RC Lens qui est un groupe qui est très peu expérimenté et également le PSV Eindhoven. Mm-hmm. Je vois pas comment CV peut finir plus bas que deuxième. Là,
c'est vrai que l'expérience de Séville est un gros facteur, certainement. Mais je pense que c'est très jouable parce que Séville n'est pas une bonne équipe. Là,
non.
À ce moment-là. Fait que c'est jouable autant pour Lens que pour le PSV, tant qu'à moi. Mm-hmm. Groupe C ensuite,
groupe C, voilà.
Parce que sur l'image, ils sont bizarrement classés, mais bref. Groupe C, Naples, Real Madrid, donc quand même, ça c'est assez intéressant. Deux grosses pointures aussi, Naples qui était une des meilleures équipes d'Europe l'an dernier. Mais ensuite, un peu comme le groupe A, là, ça devient assez évident qui sont les favoris avec Braga du Portugal et l'Union Berlin d'Allemagne. Berlin qui a été toute une surprise l'an dernier de finir quatrième en Bundesliga. Et c'est eux qui ont signé Leonardo Bonucci, si je ne m'abuse, là, dans les derniers jours.
Ouais. Mais écoute, c'est pas compliqué. Là, ça, c'est encore pire qu'il y a le groupe A, selon moi. Là, le contraste entre les équipes. Là,
ouais.
Tu te retrouves avec le Real Madrid, que je n'ai pas besoin de faire de présentation. Et Naples, qui est l'équipe championne à titre de la Serie A, qui a été une des meilleures équipes en Europe l'année passée. Après ça, tu te retrouves avec Braga, puis l'Union Berlin. Sans manquer de respect à ces deux équipes-là, normalement, ça devrait être très facile pour Naples et le Real Madrid. Mais honnêtement, ça va être très intéressant. La confrontation entre Naples et le Real, là, ça risque d'être des excellents matchs de foot. Là.
Donc, oui, tout à fait. Bayern, Manchester, Et Real Naples, c'est vraiment à regarder. Ensuite, ouais, moi je suis d'accord avec toi, là, honnêtement. Rien d'autre à dire, le Real et Naples sont censés passer très facilement. Ensuite, groupe D, ça c'est un groupe peut-être pas le plus intéressant, mais que c'est là qu'on pourrait voir peut-être des underdogs ressurgir, je pense. Là. Benfica, Real Sociedad, Salzburg et Inter Milan. Bon, Inter Milan, je pense, là, s'ils jouent un moindrement bien, vont être au sommet de ce groupe-là. Ensuite de ça, Benfica a quand même du succès lorsqu'il y a des forces de groupe de la Ligue des Champions. Je pense que c'est eux les favoris pour sortir de ce groupe-là. Mais quand même, la Real Sociedad n'est pas un mauvais club. Elle, qui est surtout habituée à la Conference League ou à l'Europa League, là, elle est en Ligue des Champions. Puis même Salzburg, là, qu'on voit presque chaque année maintenant, là, du côté de l'Autriche. Donc, mais voilà, ouais, moi, si j'avais à choisir, j'irais avec Benfica Inter Milan et Benfica. Mais je pense que tout le monde a son mot à dire là, dans ce groupe-là.
Ah, moi, je trouve que c'est un groupe qui est hyper intéressant, le groupe ouais. D. Tu as l'Inter de Milan, tu as Benfica, qui est une équipe qui, pour vrai, l'année passée, aurait pu faire un excellent bout de chemin à la Ligue des Champions. Mm-hmm. Donc, c'est une équipe qui surtout, moi, je trouve, tu on a souvent parlé de l'Ajax d'Amsterdam comme un berceau de joueurs prometteurs, mais Benfica aussi, c'est un excellent oui. berceau de joueurs prometteurs. Là. Il y en a beaucoup. Hein. On avait mentionné plus tôt, là, mais les joueurs Félix, il y a eu Darwin Núñez qui est arrivé de là.
Gonzalo Ramos.
Ouais, Gonzalo Ramos qui est arrivé au Paris Saint-Germain. Beaucoup, beaucoup. Comment il s'appelle? Ruben Dias?
Oui, du côté de Ruben Manchester Dias. City,
qui est possiblement le meilleur défenseur au monde qui joue dans cette équipe, qui vient de Benfica. Donc, c'est une équipe qui peut se surprendre à chaque année, hein, surtout que c'est une équipe qui a de nombreuses pépites. Bon, Salzburg et la Real Sociedad. Du côté de la Real Sociedad, c'est une équipe qui est une bonne équipe de Liga, mais d'après moi, ça va finir derrière l'Inter Milan et Benfica, puis je vois Salzburg terminer dernier du groupe. Là. Je pense que ça va sembler à ce pas, selon moi, dans le groupe D.
Ouais, un autre grand nom qu'on n'a pas nommé qui provient de... Ben, il y a Enzo Fernandez, mais il y a aussi Angel Di Maria.
Oui, c'est vrai, qui est de retour.
Benfica. Ouais. Donc voilà, un grand club formateur, là, quasiment autant que l'Ajax. Ensuite, groupe E. Bon, un autre groupe qui personnellement ne m'intéresse plus ou moins, mais Feyenoord. Mais ça, ouais, mais comme le groupe D, j'ai l'impression que ça peut, on peut avoir des surprises dans ce groupe-là aussi. Feyenoord, Atlético Madrid, la duo de Rome. Et Celtic Glasgow, donc les champions d'Écosse et les champions des Pays-Bas, en Feyenoord et Glasgow. Je pense que les favoris restent Madrid et Rome, mais encore une fois, je connais pas beaucoup les équipes de Feyenoord et de Glasgow, mais je pense que c'est des équipes qui peuvent être capables de causer une surprise, qui peut rendre ce groupe-là intéressant, même si, comme le groupe dont on vient de parler, c'est pas le groupe avec le plus gros calibre de jeu.
Non, mais j'ai rien d'autre à rajouter. Tu as tout dit là, par rapport au groupe E. Là. Honnêtement, j'ai rien à dire. Là.
Ben, écoute, c'est quand tu as quelqu'un qui dit tout, tu sais. Ouais. Bon, c'est le temps. On est rendu au fameux groupe de la mort. Oh, yeah. Écoute, j'en reviens encore pas. Je pense que depuis que je suis la Ligue des Champions, c'est le meilleur groupe que j'ai vu là, sous les yeux. Là. En tout cas, à première impression, là, on n'est pas encore rendu dans les matchs, là, mais c'est exceptionnel. Puis d'autant plus que c'est la dernière édition qu'on fait avec des forces de groupe de la sorte. Là. L'an prochain, la Ligue des Champions sera différente. Donc peut-être que c'est un cadeau des dieux du football de nous donner un groupe de la mort de la sorte. En tout cas, c'est pas un cadeau pour les fans du PSG, de Dortmund, de Milan et de Newcastle. Mais t'as l'air surpris, ça va-tu?
Ah non, non, je regardais juste parce que j'avais fait une analogie, mais vas-y.
OK, bon. Mais oui, pense à ton analogie, mais Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund. Bon, Paris Saint-Germain, champion de France, Borussia Dortmund, deuxième de Bundesliga, très, très serré avec le Bayern l'an dernier. L'AC Milan, bonne équipe italienne. Et Newcastle United, on parlait d'Arabie Saoudite tantôt, depuis 2021, Newcastle appartient. Également à l'Arabie Saoudite, et donc qui a fini quatrième de Premier League l'an dernier. Très, très bonne équipe également. C'est que pour moi, on va finir par faire nos prédictions de ça. Si c'est pas dans cet épisode-là, ça serait une autre fois, là, mais c'est tellement difficile à départager qui finit où. J'ai l'impression que n'importe quelle équipe dans ce groupe-là peut finir premier, puis n'importe quelle équipe peut finir dernier dans ce groupe-là. C'est tout un groupe de la mort. Là.
Honnêtement, ce groupe-là est sensationnel. L'analogie que j'allais faire, c'était que je trouve que ce groupe-là ressemble à celui de 2018-2019, le fameux groupe qui avait le PSG encore une fois, mais aussi il y avait Liverpool et Naples, qui avaient un groupe absolument incroyable avec des matchs sensationnels. Puis là, le PSG et Liverpool s'étaient qualifiés de justesse, puis là, Naples a été éliminé de justesse aussi. Donc, je trouvais que ce groupe-là ressemblait, mais là, c'est encore plus relevé que ce
les
groupe-là.
Les quatre équipes sont
incroyables. On parle du PSG qu'on en parlait plus tôt, mais également, tu as l'AC Milan qui redevient l'AC Milan des grandes années. Tu as Borussia Dortmund qui a toujours été une équipe redoutable. Puis surtout, moi, c'est l'équipe que je voulais voir en Ligue des Champions cette saison, Newcastle, qui est une équipe qui a réalisé un excellent mercato, une équipe qui, on voit une équipe en ascension, un peu comme City l'était au début des années 2010, qui est venu se faire racheter aussi. Donc là, ça va être intéressant de voir leur premier parcours à Ligue des Champions depuis de nombreuses années. Comme tu as mentionné, Ali, toutes les équipes ont une chance de se qualifier dans ce groupe-là. Mais je vois quand même le Paris Saint-Germain terminer premier de ce groupe-là. Je pense que c'est l'équipe avec le plus de profondeur de toute cette équipe-là, de toutes ces quatre équipes-là.
Le problème, c'est le milieu de terrain, encore une fois. Là.
Encore une fois, le problème, c'est le milieu de terrain, mais je pense qu'ils vont s'en sortir pareil. Mais tu sais quoi? Je pense que Newcastle peut créer une surprise puis se qualifier.
Peut-être une surprise, tant qu'à moi.
Moi, je pense que ce serait possible, honnêtement. Je pense que Newcastle peut se qualifier en 8e, en terminant derrière le PSG. Je verrais Dortmund faire le 3e puis l'AC Milan dernier.
Moi, tu vois, l'équipe que j'ai le moins confiance dans ces quatre-là, c'est Dortmund. Leur début de saison jusqu'à maintenant, là, ils ont fait 2-2 contre une équipe qui n'est même pas en Bundesliga aujourd'hui. Là. Donc, puis c'est pas le meilleur début de saison. C'est sûr qu'ils ont amassé de temps pour se rattraper. Mais avec les départs de Bellingham, on est allé chercher Füllkrug, là, par contre, du côté de Dortmund. Là, ça, c'est intéressant, là, même si on a déjà Sébastien Haller en striker. Mais bref. J'ai l'impression que Dortmund, ça doit être tellement difficile de rebondir après une déception comme l'an dernier. Là. Ouais. Donc, j'ai quelque chose qui me dit que Dortmund ne sortira pas de ce groupe-là parce que Newcastle va être très fort, va avoir faim. L'AC Milan, c'est une équipe qui gagne en puissance, j'ai l'impression. Donc, moi, j'irai avec Dortmund. Si une prédiction que j'aurais à faire, c'est Dortmund qui ne se classe pas. Ensuite, je vais y aller avec PSG, premier du groupe, moi aussi. Je pense que c'est le choix logique, même si tout peut arriver. Puis ensuite, entre AC Milan et Newcastle, j'ai de la misère à départager. Là. Mais peut-être à y aller avec l'expérience de Milan, mais c'est très, très, très difficile à dire. On va en reparler de toute façon dans les prochains épisodes. Mais bref, restez à l'affût du groupe de la mort parce que ça va être des matchs tellement emballants là, tout au long de l'automne et de l'hiver. Ouais, tu voulais dire autre chose?
Ah, moi, tu l'as pas fait mal dit. Il n'y a aucun match dans ce groupe-là qui va être poche, j'ai l'impression.
Mais non, mais j'espère pas. Là, avec des équipes d'autant de qualité en Ligue des champions, on ne veut pas de match plate, là, s'il vous plaît.
Non.
OK, alors, c'est tout pour le groupe F. Et je rappelle, dernière édition là, d'un format de la sorte de la Ligue des champions. Donc, c'est les dernières forces de groupe que l'on voit, du moins pour l'instant. Et on est gâtés avec ce groupe de la mort. Groupe G maintenant, Manchester City, Leipzig, l'étoile rouge de Belgrade, qui est tellement également appelé Zvezda. J'aime mieux dire étoile rouge.
Hein.
Les Young Boys de Berne, donc en Suisse. Encore une fois, très évident, le Manchester City facilement premier là, dans ce groupe-là. Et ensuite, Leipzig va être deuxième tant qu'à moi parce que, écoute, les équipes de Serbie, de Suisse sont loin derrière pour moi. Et Leipzig puis City, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont, ils ont joué l'an dernier contre. C'était en huitième de finale, si je ne me trompe pas. Donc, est-ce que tu es d'accord avec ça, City-Leipzig?
Ah, oh, ouais, ça, c'est indéniable. Même que c'est un groupe très, très, très favorable pour City. Tu l'as dit, ils se sont affrontés en huitième de finale. Puis surtout, on a le droit à un match assez exceptionnel de Erling Haaland, un match retour. Là. Il avait marqué 5 buts dans une victoire de 7-1 de City contre Leipzig au match retour du côté de l'Etihad Stadium. Ça va être hyper facile là, pour Manchester City, j'ai vraiment l'impression. Puis Leipzig est obligé de terminer deuxième. C'est pas compliqué, obligé.
Non, ouais. Tout à fait d'accord avec toi. Ce qui nous apporte au dernier groupe, le groupe H, FC Barcelone, qui est quand même très bien là, avec dans son groupe Porto, qui est pas mauvais, il faut le dire, mais quand même, Barcelone se doit de finir premier. Et ensuite, Shakhtar Donetsk du côté de l'Ukraine et Antwerp du côté de Belgique. Antwerp, champion surprise de Belgique. Encore une fois, là, pour moi, Barça est facilement premier. Mmh. Ensuite, selon la logique, ce serait Porto. Je vois peut-être Shakhtar être capable de causer une surprise, ou même Antwerp, là, qui est une équipe que je ne connais pas vraiment. Là. Donc, mais selon la logique, j'irais Barça et Porto pour ce groupe H. Qu'en penses-tu?
Bah, du même avis. Du même avis. Honnêtement, ouais. Je peux rien rajouter de plus.
Bon, ben, dans ce cas-là, c'était le segment Ligue des Champions. Vite, vite, là, on va pas faire tous les groupes de Bundesliga, là, mais pas de Bundesliga, de Ligue Europa. Mais il y a le groupe B en Ligue Europa qui est assez intéressant, qui est le groupe de la mort version Ligue Europa. C'est l'Ajax Amsterdam, l'Olympique de Marseille, Brighton et Athènes. Donc, ça va être intéressant de voir ça aussi. Dans ce groupe-là, j'ai l'impression que j'irai avec Brighton et Ajax, moi, je pense. Marseille va encore pas se qualifier.
Mais Marseille s'est drôlement amélioré durant la saison. Ouais, c'est vrai. On a cherché Aubameyang, Ismaël Assar. Et on a été chercher également Niang, je pense. Ndiaye seulement, parce que faudrait que je trouve.
Ouais, Ndiaye, ouais, un Sénégalais. Ouais.
Ils ont vraiment eu un mercato assez intéressant. Oh, il y avait Konambia aussi qui avait cherché.
Ouais, Konambia, mais ils ont perdu Guendouzi.
Ouais, ils ont perdu Guendouzi. Et là Konambia,
c'était. Konambia, c'est un bon milieu défensif.
Ouais, mais il s'est blessé par contre. Il est blessé pour genre 5-6 semaines, un peu comme Vinicius. Donc, malheureusement, mais bref, ils ont un mercato. Quand même très surprenant, mais je vois Marseille peut-être causer une surprise puis terminer deuxième peut-être, mais je suis du même avec toi, je pense que je vois l'Ajax puis Brighton terminer top 2.
Ouais, je vois même Brighton premier, là. Pour moi c'est la meilleure équipe. Je pense que l'Ajax n'est plus l'Ajax de 2018 ou 2019 là, de 2019 en fait, avec De Ligt, De Jong et tout ce beau monde-là, on est quand même loin de ça tant qu'à moi là. Mais donc, puis je pense Brighton avec l'ajout d'Ansu Fati, c'est sûr qu'on a perdu des bons joueurs, mais on a quand même été actifs sur le mercato du côté de Brighton. Donc, moi, je les vois premiers de ce groupe-là. Puis pour terminer avec la Ligue Europa, Liverpool, il faut en parler, là, qui est clairement, là, tant qu'à moi, la meilleure équipe de cette Ligue Europa. Il faut dire que une fois que la force de groupe de la Ligue des Champions va être terminée, tous les troisièmes vont. Il va y avoir des meilleures équipes qui vont s'ajouter. Voilà, Liverpool, dans son groupe, là, honnêtement, là, je ne veux rien de moins que de la destruction là, du côté de Liverpool, parce que c'est LASK, qui est une équipe lettonne, je crois, que je ne connais pas, je suis désolé, Union Saint-Gilloise en Belgique et Toulouse en France. Donc, écoute, il y a un seul but, là, c'est de détruire. Il n'y a pas de point qu'on échappe dans ce groupe-là. Là. Je ne vois pas comment ça peut arriver du côté de Liverpool.
Non, effectivement, mais c'est triste, c'est juste triste. Je ne veux pas revenir là-dessus.
Ouais, t'es déçu, hein,
mais l'Europa League. Non, mais moi, c'est surtout quand je vois Manchester United en Ligue des Champions, c'est juste. Je suis comme. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Non, mais faut en parler, là.
Ouais, ben,
faut en parler 30 secondes. Manchester United, là, leur niveau de jeu cette saison est tout sauf rassurant. Mm-hmm. Ça n'a pas de sens. Pourtant, ils ont été chercher. T'as un nouveau gardien de but, Onana, qui a commis une bourde monumentale dans la dernière rencontre contre, je pense que c'était Nottingham Forest.
Ils ont fini par gagner le match quand même.
Perdait 2-0, je ne me trompe pas, contre cette équipe-là en plus. Donc, perdu contre Tottenham, c'est pas une belle équipe de Manchester United, là, qu'est-ce qu'on voit en ce moment. Là. Puis en plus, ils ont nommé Bruno Fernandes capitaine. Ça, je ne veux pas revenir non plus là-dessus. C'est juste déçu. C'est mérité, par contre.
On était moins constants avec United l'an passé. En fin de saison, Liverpool a quasiment rattrapé Newcastle ou United, mais qu'est-ce que tu veux, ce n'est pas arrivé. Donc, Liverpool mérite son sort, puis moi, rendu là, je l'accepte et je veux juste qu'on gagne la Ligue Europa. C'est tout simplement ça le but. Là. En ce moment, on est la meilleure équipe en Ligue Europa. Lorsqu'il va y avoir d'autres équipes qui vont se rajouter, ça va peut-être monter le calibre de jeu, mais là, dans cette force de groupe, il y a un seul mot, c'est la destruction, tant qu'à moi, du côté de Liverpool.
Mais, je veux pas qu'on par contre, il faut faire attention.
Il n'y a pas de raison d'échapper des points contre ces équipes-là.
Ouais, c'est vrai, mais il faut faire attention parce qu'Arsenal aussi, je me rappelle très bien, Thomas, il a parlé l'année passée, il était comme on a la meilleure équipe d'Europa League, puis on a perdu en 8e de finale. Donc,
c'est vrai. Non, il ne faut pas s'asseoir sur ses lauriers, mais tu regardes le calibre, surtout dans ton propre groupe, tu n'as pas de raison d'échapper.
Même pas
de match, de points, tout simplement. Donc, hâte de voir cette compétition-là s'amorcer, même si oui, il y a une déception que notre club ne soit pas en Ligue des Champions, mais écoute, faut l'accepter. Et on va terminer rapidement avec le CF Montréal, qui depuis son retour de Leagues Cup, c'est deux victoires et une défaite à New York lors du dernier match. Mais ce que je voulais surtout parler, c'est le retour de Wilfried Nancy à Montréal dès demain au stade Saputo. Et la question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu t'attends à un hommage de la direction montréalaise à Wilfried Nancy demain?
Honnêtement, je pense pas. Je pense pas parce qu'il y a eu un froid entre les deux.
Avec Saputo.
Avec Saputo, donc. Je vois très mal le CF offrir un hommage à Wilfried Nancy. C'est triste parce que Wilfried Nancy a vraiment accompli de belles choses en peu de temps comme entraîneur-chef avec le CF. Mais en même temps, force est d'admettre que écoute, Wilfried Nancy n'a pas amené de titre à Montréal. Donc, je vois très mal le CF lui offrir un hommage. Peut-être que ça va être les fans qui vont lui offrir un hommage, hein, qui sait. Mais je suis pas prêt à dire qu'ils vont avoir un hommage.
Je serais même pas surpris que Saputo lui-même là, ait donné une directive qu'on ne faisait pas de dommage à Nancy. Mais tu sais, t'as parlé de titres. Oui, il n'y en a pas apporté à Montréal, mais oublie pas, là, il a été entraîneur-chef une seule année. Il a battu des records. On a eu la meilleure saison dans l'histoire du CF Montréal en MLS. Fini deuxième de l'Est. Moi, Nancy, je pense qu'il en mériterait des hommages parce que non seulement il y a eu la meilleure année en tant qu'entraîneur-chef à la barre du CF Montréal, mais en plus de ça, il a passé quasiment 20 ans dans l'équipe en tant qu'assistant coach ou dans le personnel de l'équipe. Pour moi, Nancy, c'est une des personnes les plus importantes dans l'histoire du CF Montréal et de l'impact en MLS, tout simplement.
Ouais.
Pour moi, il en mériterait une, mais je pense que ça n'arrivera pas puisque c'est rendu un ennemi à Columbus et que Saputo et lui, ça ne va pas ensemble. Donc, c'est comme tu as dit, c'est aux fans de l'applaudir. J'espère que ça va être fait. Mais c'est à voir.
Ouais, c'est sûr.
Alors là-dessus, Dou, écoute, ça a été encore une fois très passionnant, jaser du mercato européen endiablé qui est terminé. Maintenant, on peut se concentrer sur les saisons en Europe, en MLS, ça continue aussi. En Arabie Saoudite, à ne pas oublier. Juste, petite parenthèse, là, Messi en MLS est à 11 matchs, 10 buts, 3 passes. Ronaldo en Arabie Saoudite, 11 matchs, 10 buts, 3 passes. C'est même statistique des deux côtés, ce qui enflamme le débat des GOAT encore sur Twitter et tout. Et les deux ont chacun gagné un trophée jusqu'à maintenant là, dans leur équipe respective. Fait que c'est toujours drôle de voir ces deux fanbases se battre. Mais voilà, mais là-dessus, je te remercie d'avoir participé à cet épisode-là de Mercato, de Ligue des Champions et un peu de CF Montréal. Toujours apprécié de t'avoir Ah, Jason Ballon rond.
Non, pareil, écoute, la prochaine fois, j'aimerais ça que Nick et Tom soient là, mais écoute, ouais. C'est pas. Ça devrait être plus facile maintenant avec les cas qui recommencent, ça, je pense.
Ouais.
Tout le monde devrait être là, là. Fait que. Moi, j'ai hâte de faire l'autre épisode, c'est sûr.
Donc, mesdames et messieurs, ce fut un plaisir de jaser pour vous de Ballon rond. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour un autre épisode de Jason Ballon rond.